près de la ville de Lazé. Comme beaucoup de temps s'était écoulé et que la navigation devenait dangereuse,
le jeûne était déjà passé,
Paul les avertissait.
Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes.
Mais le centurion se fiait au timonier et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. Comme le port se prêtait mal à l'hivernage, la majorité décida de remettre la voile pour tâcher d'atteindre Phénix, un port de Crète tourné vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. La tempête. Un léger vent du sud s'était levé. Pensant être en mesure d'exécuter leur projet, ils ont levé l'ancre et se sont mis à longer de près la Crète. Mais peu après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Euraquilon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés porter à la dérive.
Tandis que nous passions au-dessous d'une petite île appelée Coda, nous avons réussi, à grande peine, à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, ils se sont servis des moyens de secours pour ceinturer le bateau et, de crainte d'échouer sur la Syrte, ils ont descendu l'ancre flottante, continuant à la dérive.
Comme nous étions fortement secoués par la tempête, ils se sont débarrassés le lendemain d'une partie de la cargaison. Le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Ni le soleil ni les étoiles n'avaient paru pendant plusieurs jours, et la tempête restait si forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit:
« Mes amis, vous auriez dû m'écouter et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit:
« N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. »
Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une certaine île.
C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand les matelots, vers le milieu de la nuit, ont soupçonné l'approche d'une terre. Ils ont jeté la sonde et trouvé 20 brasses. Après avoir couvert une courte distance, ils l'ont jetée à nouveau et trouvé 15 brasses. Craignant d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres de la poupe en souhaitant que le jour se lève. Mais comme les matelots cherchaient à s'enfuir du bateau et faisaient descendre la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller depuis la proue fixée plus loin des ancres, Paul a dit aux centurions et aux soldats:
« Si ces hommes ne demeurent pas dans le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. »
Alors les soldats ont coupé les cordes de la chaloupe et l'ont laissé tomber. En attendant que le jour se lève, Paul a invité tout le monde à prendre de la nourriture en disant:
« C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous restez à jeun, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car il y en va de votre salut. Aucun d'entre vous ne perdra un seul cheveu de sa tête. »
Après avoir dit cela, il a pris du pain, il a rendu grâce à Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors, reprenant courage, tous ont pris de la nourriture. Nous étions dans le bateau, 276 personnes en tout. Quand tous ont eu assez mangé, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Le naufrage. Lorsque le jour s'est levé, ils n'ont pas reconnu la terre, mais ils ont aperçu un golfe et ils ont décidé de pousser le bateau, si possible, jusqu'au rivage. Ils ont détaché les ancres pour les laisser aller à la mer et ils ont relâché en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils ont mis au vent la voile d'Artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable entre deux courants, et ils y ont échoué le navire. La proue, bien engagée, demeurait immobile, tandis que la poupe se disloquait sous la violence des vagues.
Les soldats avaient décidé de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centurion, qui était décidé à sauver Paul, les a empêchés de mettre leur décision à exécution. Il a donné l'ordre à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre. Les autres les rejoindraient sur des planches ou sur des débris du bateau. Ainsi, tous sont parvenus à terre, sains et saufs.
Livre de Jonas, chapitre 1, versets 1 à 4. Jonas essaie de s'enfuir pour échapper au Seigneur. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai.
Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi.
Alors, Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. Chapitre 1, versets 10 à 16. Jonas sur le navire. Les hommes eurent très peur. Ils lui dirent:
qu'as-tu fait là?
Ils savaient en effet qu'il fuyait pour échapper au Seigneur, parce qu'il le leur avait expliqué. Ils lui dirent:
que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme envers nous?
Car la mer se déchaînait de plus en plus. Il leur répondit:
prenez-moi, lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous. Je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête.
Les hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils n'y parvenaient pas, parce que la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent le Seigneur, ils dirent:
Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que nous ne disparissions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent, car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu.
Puis ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Les hommes eurent peur, ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur. Ils offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. Chapitre 3, versets 4 à 10, Jonas à Ninive. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il proclamait:
encore 40 jours et Ninive est détruite.
Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit d'entre eux. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier dans Ninive:
par décision du roi et de ses grands, que les humains et les bêtes, le gros bétail et le petit bétail ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les humains et les bêtes soient couverts d'un sac, qu'ils invoquent Dieu avec force et que chacun revienne de sa voix mauvaise et de la violence de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas, s'il renoncera pas, s'il ne reviendra pas de sa colère ardente pour que nous ne disparaissions pas.
Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur voie mauvaise. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit pas. Chapitre 4, versets 1 à 3, Jonas et la compassion divine. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant:
s'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité qui renonce au mal. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre.
Merci. On va aller ensemble dans la prière. Père éternel, je veux te remercier pour ta parole qui te révèle, Seigneur, ta parole qui est concrète à travers la vie de Jonas, la vie de Paul, la vie de ces marins qui sont là, les gens de Ninive qui sont comme tous les êtres humains, Seigneur, qui vont leur vie sans nécessairement te chercher, chercher à te glorifier. Seigneur, pour moi, ces récits me parlent beaucoup de toi, de ton cœur à toi, Seigneur, et me parlent de moi, de mon cœur à moi, Seigneur, du cœur de ton Église ici, à l'Église de l'Espoir. Je te prie de venir nous éclairer ce matin, Seigneur, alors qu'on est dans cette fin de semaine de l'action de grâce et que nous constatons, nous contemplons, Seigneur, tes bontés envers nous qui vivons ici dans cette terre d'abondance, Seigneur, et qu'on est en toute liberté réunis ce matin pour te célébrer, pour chanter des cantiques, qu'on est transportés, Seigneur, par des gens qui ont mis du temps à préparer toute cette louange, ces chants, Seigneur. Il y a des gens qui s'occupent de nos enfants. Tant de grâce, tant de bénédictions, Seigneur. Viens nous parler de ton cœur. Et je te prie de me remplir de ton esprit, afin, Seigneur, que tout ce que je dis soit édifiant, Seigneur, et conforme à ta volonté. Viens te révéler à nous par ton Esprit Saint. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Des longs passages de ce temps-ci. Hein? J'espère qu'avec l'élément dynamique, on vous aide à rester avec nous, à être bien présent avec nous pendant la lecture. Alors, c'est deux histoires de tempête, d'accord? Il y a plusieurs parallèles qui sont comme assez évidents. Deux histoires de tempête, deux histoires d'intervention surnaturelle de la part de Dieu, deux histoires de gars qui sont envoyés en mission pour apporter un message d'espoir, deux histoires qui se ressemblent énormément, puis en même temps, il y a quelque chose de fondamentalement différent à l'intérieur de ces deux histoires-là. Lorsqu'on les met en parallèle, les deux histoires, on apprend beaucoup de choses sur Dieu, sur la personne de Dieu, sur le cœur de Dieu, là où est son cœur. Mais une des choses, je trouve, qui ressort lorsqu'on met les deux histoires en parallèle, on peut voir à quel point l'Évangile est une puissance de Dieu pour transformer nos cœurs, pour transformer en profondeur le cœur humain, changer nos motifs, changer nos dispositions de cœur, changer notre manière de voir les gens autour de nous. Et c'est ça qu'on va essayer de faire ressortir ensemble ce matin. Ce que Dieu veut faire, il veut nous donner son cœur pour que nous apprenions, que nous prenions à cœur d'annoncer l'Évangile de la grâce aux gens qui sont autour de nous. Dieu veut nous donner son cœur à lui. C'était vrai à l'époque de Jonas, on va le voir avec Jonas, c'était vrai à l'époque de Paul et c'est vrai encore aujourd'hui. Des fois, lorsqu'on lit les Écritures, la distance du temps peut nous donner l'impression que ce n'est pas pertinent pour nous, aujourd'hui, maintenant. Je pense aux jeunes, ça a l'air des vieilles histoires empoussiérées. Maintenant, entre Jonas et Paul, il y a combien d'années d'après vous? Autour de 700 ans, 7 siècles environ entre Jonas et Paul. Et Dieu est le même. Dieu a les mêmes choses à cœur, Dieu a le même cœur, c'est le même Dieu. Entre Paul et nous, environ 2000 ans, c'est encore aujourd'hui exactement le même Dieu. Dieu est toujours le même, il ne change pas. Le Dieu qui s'est adressé à Jonas pour l'envoyer vers les gens de Ninive, c'est le même Dieu qui s'adressait à Paul pour l'envoyer à Rome pour pouvoir apporter ce message d'espoir qu'est l'Évangile. Et c'est le même Dieu aujourd'hui qui s'adresse à vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un chrétien, pour vous envoyer, pour nous envoyer, nous, vers les gens que Dieu place sur notre chemin. Donc, il y a beaucoup de parallèles entre ces deux histoires-là. Et pourtant, il y a quelque chose de fondamental, fondamentalement différent entre l'histoire de Jonas et celle de Paul. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Maintenant, avant d'aller parler de Jonas, de parler de Paul, de parler de nous, j'aimerais ça parler de Dieu pour commencer. Parce que tout commence avec Dieu, tout le temps. Tout commence par Dieu lui-même. Tout le temps. Dans les deux histoires de tempête, de missionnaires, on voit la grandeur de Dieu, on voit la bonté de Dieu et on découvre le cœur de Dieu. D'accord? Dans ces deux histoires-là. Premièrement, deux histoires qui sont un petit peu différentes, on va l'admettre. Il y en a une, c'est une histoire de pêche où un gros poisson va à la pêche puis pêche un petit missionnaire pour son lunch. Puis il y en a une autre, c'est une histoire de naufrage. D'accord? Mais dans les deux cas, la souveraineté et la puissance de Dieu sont évidentes. C'est le même Dieu tout-puissant. Pourquoi est-ce que je veux le souligner ce matin? Parce que c'était vrai dans le cas de Jonas. Dieu donne une mission à Jonas, mais c'est le Dieu souverain et tout-puissant qui l'accompagne. C'était vrai dans le cas de Paul. Dieu donne une mission à Paul. C'est le Dieu souverain et tout-puissant qui accompagne Paul. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Et on perd ça de vue lorsqu'on est devant cette mission que Dieu nous donne. On perd de vue qu'on est en train de servir en réalité celui qui a toute puissance, toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est le même Dieu que nous servons qui est tout puissant. Alors regardons ensemble la souveraineté et la puissance de Dieu dans ces deux récits-là. Le Dieu de Jonas, c'est le même que le Dieu de Paul. Et c'est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est le créateur de toutes choses. Lorsqu'on commence les Saintes Écritures, on commence avec la Genèse. Qu'est-ce qu'on découvre sur Dieu? On découvre que Dieu est tout-puissant et que lorsque Dieu décide de quelque chose, c'est ça qui se passe. C'est loin d'être le cas avec nous, n'est-ce pas? Nous autres, on projette, on planifie des choses, puis ça se réalise une fois sur deux à peu près. Mais quand Dieu conçoit un projet dans son cœur Et puis que là, il décide de déclarer ça. C'est ça qui va se produire. Ça se produit. C'est ça qui s'accomplit. C'était comme ça à la création. Dieu dit et la chose est. Mais c'est ça aussi dans l'histoire de Jonas. Alors Dieu dit à Jonas, tu vas aller à Ninive. Jonas va aller à Ninive. Même s'il doit embarquer dans un taxi poisson pour se rendre là, il va aller à Ninive, vous comprenez? Il va se rendre là. Parce que Dieu l'a dit, c'est dans les desseins de Dieu. Il le dit, la chose se fait. Dieu dit à Paul, « Paul, tu vas te rendre à Rome. » Oui, mais c'est parce qu'ils veulent me tuer. Je suis enchaîné. Je pense que mes espoirs sont assez limités. Il y a 40 hommes qui ont fait le vœu de me zigouiller. Tu vas te rendre à Rome et Paul va se rendre à Rome. Les hommes ont beau manigancer des plans pour pouvoir l'éliminer. Il y a beau y avoir une tempête où, en principe, le navire aurait dû faire naufrage. Paul va se rendre à Rome. Parce que Dieu avait dit à Paul, tu vas te rendre à Rome. On avait vu ça un petit peu plus tôt dans Actes 23, verset 11. Le Seigneur apparaît à Paul et voici ce qu'il lui dit. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Il dit, « Inquiète-toi pas, regarde pas aux circonstances. C'est moi qui contrôle les circonstances. C'est moi qui ai le chef de mission ici. » Et c'est ce Dieu souverain-là qui est notre Dieu aujourd'hui. Alors, si Dieu nous a donné une mission d'annoncer l'Évangile, d'apporter un message d'espoir, c'est ce Dieu-là que tu sers. Et je n'ai jamais, jamais, jamais à douter de la toute-puissance de Dieu, de sa souveraineté. C'est ce Dieu-là que je suis en train de servir. Et il y a des situations où vous cherchez à témoigner, vous voulez vous afficher, les jeunes à l'école, d'autres au travail, à l'université, tout ça, vous voulez saisir des opportunités pour partager à des amis, votre foi, tout ça, puis vous dites, mais les circonstances sont difficiles. Vous regardez les tendances sociales, puis on dit, oui, mais ça va être de plus en plus difficile, assez littéralement, de s'afficher, n'est-ce pas? Dieu est souverain. Dieu est souverain, c'est Dieu qu'on sent, c'est lui le chef de mission. Il n'y a aucun homme qui va pouvoir résister à ce que Dieu a comme dessein de faire. Et si Christ nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », je vous le dis, au ciel, il va y avoir des disciples de toutes les nations lorsqu'on va aller dans cette grosse fête-là. Parce que Dieu est souverain. Parce que Dieu est souverain. Mais non seulement Dieu est souverain, mais Dieu est bon. Et je vois la bonté de Dieu dans les deux histoires. C'est encore un élément parallèle entre les deux. Et quand je pense à la bonté de Dieu, je pense à la bonté générale de Dieu. Tout à l'heure, lorsque je vous ai souhaité la bienvenue, je vous ai parlé de cette fin de semaine incroyable qu'on a avec un soleil tellement beau. Hier, tout le long de la journée, je n'étais pas en train de me préparer pour le message, je n'étais pas en train de me craquer. Je ne sais pas, je sortais dehors, puis toute la semaine, j'étais comme ça. Mes amis, le soleil était là. Hier, je m'en vais faire mon sport, je sors, puis encore une fois, puis même il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, il n'était pas en train de rendre gloire à Dieu, mais il dit, mais qui fait beau, ça n'a pas de bon sens. Et chaque fois que je voyais à quel point la température est incroyable, mon cœur se remplissait de reconnaissance. C'est ça que j'expérimentais hier. À chaque fois, c'était « Mais Dieu, t'es tellement bon! » Et vous savez quoi? On a un automne incroyable jusqu'à présent. C'est pas parce que les Québécois sont comme spécialement pieux cet automne. Vous comprenez? C'est pas parce que tout d'un coup, il y a une espèce de relent de « Ah, oh, il faut rendre grâce à Dieu. Peut-être qu'on aura du soleil. » Non! Il n'y a rien qui a changé dans le cœur des Québécois. Dieu ne leur donne pas un bel automne parce qu'ils sont plus pieux. Dieu leur donne un bel automne parce qu'il est bon. C'est tout. Il est bon. Dieu est bon. Il est généreux. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. J'espère que vous avez les yeux ouverts sur toutes les bontés de Dieu dans votre vie pour pouvoir les embrasser, les voir constamment. Parce que lorsque je m'engage dans cette mission d'annoncer ce message d'espoir, j'ai besoin de garder à l'esprit que c'est un Dieu profondément bon que je suis en train de servir. Ça va changer mon regard sur les gens autour de moi. Encore faut-il avoir les yeux ouverts, des yeux pour voir ça. Maintenant, ouvrez grand les yeux et regardez dans ces deux histoires-là la bonté de Dieu. Premièrement, envers les marins sur le navire de Jonas. Ces gens-là n'étaient pas particulièrement pieux comme les Québécois. Et il n'y a rien dans le texte qui nous dit que c'est à cause de leur bonté que Dieu a décidé de les sauver. Mais Dieu, dans sa grâce, a décidé, dès qu'ils ont jeté Jonas à la mer, Dieu a honoré ce qu'il avait promis, ce qui allait se passer, ce que Jonas avait dit, et il a arrêté la tempête et il les a sauvés. Dans leur cas, ils ont été reconnaissants à Dieu. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour leur cœur à eux, si ça les amenait à se tourner vers Dieu. C'est génial. Mais Dieu était bon, tout court. Envers les marins qui sont sur le navire avec Paul. Dieu sauve tous les marins sur le navire. Dans leur cas, à eux, on n'a aucun indice de piété. Aucun indice de reconnaissance. C'est pas parce que Dieu les a regardés puis il a dit, je leur dois quelque chose à eux autres, vraiment. C'est comme, tu sais, ils sont sur la coche, c'est des gens pieux qui me prient, tout ça. Je veux dire, le contexte, c'est que vous avez des soldats qui ont arrêté Paul. Il est prisonnier, il a les fers aux mains, il est en train d'être conduit à Rome pour être jugé. Bon, la fin de l'histoire, c'est qu'il va être libéré une fois, mais finalement, il va être arrêté encore après, plus tard, puis je veux dire, il va finir martyr. D'accord? Alors, ces gens-là ne méritaient pas les bontés de Dieu, les grâces de Dieu. Pire que ça, lorsque la tempête vient à son pire et que là, il va falloir se jeter à la mer, les soldats se disent, écoute, on les élimine toute la gang, on élimine tous les prisonniers. C'est pas qu'ils étaient particulièrement bons, n'est-ce pas? Il y a un contexte historique. Si tu étais un soldat romain, tu étais responsable de tes prisonniers, tu perdais un prisonnier, tu pouvais perdre la vie, d'accord? Alors, il y a un contexte à ça, c'est vrai. Mais ces gens-là n'étaient pas particulièrement bons. Et pourtant, Dieu les sauve tous. Et on n'a pas de récit après qui nous dit que, oh, alléluia, leurs cœurs ont été remplis d'actions de grâce. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est juste bon. Regardez comment est-ce qu'il agit avec les gens de Ninive. Il n'aura pas dit, bon, regardez les gars, je pars le timer. Vous avez de l'air d'être repentant. Je vais vous donner un petit 30 jours. On va voir si ça tient, cette affaire-là, ou si c'était juste des grosses larmes de crocodile. Non, Dieu arrête son jugement parce qu'il est bon. Puis Dieu est bon envers Jonas, puis Dieu est bon envers Paul. Je veux dire, il prend Jonas, le bougonneux, le boudeur, monsieur Baboun, puis il dit, je vais me glorifier à travers toi. Il ne comprend pas pantoute ce qu'il est en train de faire. Je veux dire, imaginez lorsque Jonas arrive au ciel, puis que là, il voit son attitude. Heureusement, le Seigneur nous a promis qu'au ciel, il essuie nos larmes, puis on ne sera pas en train de se morfondre pendant 1000 ans. Mais c'est pathétique, l'histoire de Jonas. C'est vraiment pathétique comme histoire. Dieu se sert de lui pour se glorifier. Est-ce que vous ne voyez pas là la bonté de Dieu? Dieu ne se sert pas de toi pour se glorifier parce qu'il te regarde un matin et il dit, « Oh! » Si lui, là, il me sert, là, ça va être bon pour mon équipe. Pas comme ça. Pas comme ça. Dieu se sert de nous. Malgré nous, Dieu se sert de nous à cause de sa grâce. Dieu se sert de nous à cause de ses bontés. Dieu se sert de Jonas, il se sert de Paul, le massacreur de chrétiens, le persécuteur de chrétiens pour apporter un message d'espoir à des gens qui ne cherchent même pas Dieu. La bonté de Dieu est évidente de manière constante, la bonté générale de Dieu. Et donc, lorsque je pense à ce mandat qui nous est donné d'annoncer ce message d'espoir, je veux me rappeler que je suis en train de servir un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain, un Dieu fondamentalement bon, qui veut le bien des gens. Et je vois encore un parallèle dans ce que je découvre le cœur de Dieu ici dans le passage. Dieu a à cœur le salut des hommes. Dieu a à cœur le salut de tes amis à l'école. Dieu a à cœur le salut des gens dans ta famille. Dieu a à cœur le salut de tes collègues de travail. Dieu a à cœur le salut des gens qui habitent ici autour. Et on sait ça en théorie. Hein? Si on lit les Écritures, on connaît ça en théorie. Il a donné son Fils pour leur salut, donc il doit l'avoir à cœur, pas à peu près. On sait ça en théorie, mais des fois, on prie pendant des années. On prie, puis on cherche à témoigner, puis on se bute régulièrement au fait qu'on trouve que les gens sont fermés, ils ne sont pas ouverts pour de vrai. Puis on se dit, oui, mais Seigneur, tu le sais, dans le fond, qu'ils sont fermés, puis tu le sais qu'il faut que tu interviennes pour qu'ils soient sauvés. Fait, est-ce que vraiment tu les as à cœur? Est-ce que tu ne pourrais pas te manifester de manière plus évidente à eux? Est-ce que ça ne pourrait pas être plus clair pour eux? Dieu a à cœur le salut des hommes. Ne doutez jamais de ça. Ne doutez jamais de ça. Et le passage est là pour nous révéler le cœur de Dieu, beaucoup plus que le cœur de ses serviteurs, mais le cœur de Dieu lui-même. Et on le voit ici dans le récit. À l'époque de Jonas, Dieu envoie son prophète avertir une ville qui ne connaît pas Dieu. qui ne cherchent pas Dieu, qui n'en ont rien à cirer de Dieu, pour les avertir qu'assez, c'est assez. Puis qu'ils se préparent à intervenir à cause de leur crime, à cause de leur méchanceté, de leur cruauté, parce qu'ils méprisent Dieu, mais parce qu'ils font du mal aussi aux hommes. Et Dieu en a assez et il se prépare à les juger, à exercer un jugement sur eux. Dieu regarde la vie des hommes et Dieu juge la destinée des peuples, juge les hommes. Et Dieu en a assez de toute cette cruauté, de toute cette méchanceté. Et donc, on voit en cela la sainteté de Dieu, on voit la colère de Dieu devant le mal. Mais ce n'est pas tout ce qu'on voit sur la personne de Dieu. Dieu nous révèle son cœur aussi. Dieu nous révèle son cœur aussi. Dieu désire de tout cœur que les hommes se repentent et soient sauvés. Et c'est probablement Jonas qui résume, qui exprime le mieux le cœur de Dieu dans un passage qui est hyper cynique, pathétique à mort. Tout à l'heure, on l'a lu à la fin du livre de Jonas, je vous le relis. C'est Jonas qui parle à Dieu, le cœur amer d'avoir vu que Dieu fait grâce aux gens de Ninive parce qu'il les haït profondément. Jonas 4, 2. « J'ai préféré fuir à Tarsis car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal, qui renonce au mal qu'il veut faire en jugeant, en intervenant. » Jonas connaissait le cœur de Dieu et jamais il doutait du cœur de Dieu. Parce que Jonas connaît l'histoire d'Israël, il connaît l'histoire de son peuple. Je ne sais pas si vous connaissez votre histoire à vous. Si vous regardez votre histoire personnelle à vous, est-ce que vous méritez les grâces de Dieu, les bontés de Dieu? Dieu vous a gardé ici, vivant, puis il vous bénit parce que oh, vous êtes quelqu'un. Jonas connaissait l'histoire de son peuple. Il savait que Dieu avait été bon avec Israël. Tant de fois, il avait relevé Israël malgré l'infidélité d'Israël. Incroyable, constante rébellion d'Israël. Jonas connaissait le cœur de Dieu. Je sais que tu es bon, je sais que tu es patient, tu l'es toujours avec nous. Seulement voici, j'aurais préféré que tu ne partages pas cette grâce-là avec les autres. Tellement pathétique. Dieu a à cœur le salut des hommes. Et dès que les gens de Ninive ont manifesté de la repentance, Dieu a renoncé au jugement qu'il avait annoncé qu'il allait faire contre eux. Dieu a à cœur Jonas lui-même. Moi, je l'aurais écrasé. Je disais, honnêtement, je l'aurais écrasé. C'est de la vermine. T'élimines ça. Tu comprends? C'est comme, ça fait trop longtemps. Puis Dieu vient, puis il discute avec Jonas. Non, mais Jonas, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, tu as eu à cœur un petit ricin, un arbre, tout ça, puis tu as été attristé. Puis moi, je ne serais pas attristé de voir toutes ces milliers de personnes que j'ai créées, que j'aime, qui sont dans leur bêtise, dans leur stupidité, dans leur folie. Dieu a à cœur même Jonas. Il a à cœur de voir le cœur de Jonas changer. Alors, lorsqu'on arrive dans le livre des Actes des Apôtres, mais tout le livre au complet est une démonstration évidente que Dieu a à cœur le salut des hommes. Tout le livre des Actes, c'est ça, cette histoire-là. C'est Dieu qui prend ses disciples et qui les envoie partout à travers les persécutions, un paquet de choses, et les envoie partout afin que le message soit annoncé partout. Dieu a à cœur le salut des hommes. L'apôtre Paul, dont on lit l'histoire ce matin, a lui-même écrit dans une lettre qu'il a écrite à son ami Timothée. Voici ce qu'il écrit, 1 Timothée 2, versets 1, 3 et 4. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. » Pour qui? Pour les chrétiens? Pour tous les hommes. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je ne connais pas ta théologie sur la souveraineté de Dieu, mais quelle qu'elle soit, elle ne doit jamais te conduire à douter du cœur de Dieu. Dieu a à cœur le salut des hommes. Ainsi, Dieu va envoyer Jonas, malgré l'état de son propre cœur, il va l'envoyer avec un message d'espoir à Ninive. Maintenant, je pense que je l'avais déjà souligné lorsqu'on avait regardé ensemble le livre de Jonas, mais je veux le souligner encore une fois. Jonas est envoyé à Ninive, puis c'est quoi son message? Son message, c'est encore quelques jours et vous allez être tous éliminés. Ça, c'est un message d'espoir. C'est vrai que c'est un message d'espoir. Je suis très sérieux. C'est un message d'espoir. Parce que chaque fois que Dieu dit « encore quelques temps », puis ça veut dire « tu peux te repentir ». Oui, vous pouvez vous repentir encore. Vous êtes en train de faire un vol de banque. Non, il n'y a pas beaucoup de voleurs de banque ici, j'imagine. Mettons, là, tu sais. Vous êtes en train de faire un vol de banque. Il y a un policier qui arrive. Bang! Sors le pistolet. Lâche ton arme. Rends-toi. Vous dites, c'est parce que tu peux lâcher ton arme puis te rendre? S'il ne voulait pas le faire, tout ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait pris le walkie-talkie, il aurait parlé au sniper, là-bas, il aurait dit, « Tire! » C'est tout. Mais Dieu n'a pas envoyé un sniper à Ninive. Vous comprenez? Il a envoyé un policier qui vient dire, « Mais Dieu est en train de se choquer contre vous, les amis. » Et donc, chaque fois qu'on entend une mise en garde de la part de Dieu, c'est un policier qui s'en vient pour dire, « Un jour, tu vas rendre compte à Dieu. » Un jour, c'est vrai. Un jour, c'est vrai. Il y a un sniper céleste qui va venir me ramasser et qui va dire, « C'est ton temps, tu t'en viens au ciel. » Il n'y a plus d'avertissement. Tu viens te présenter devant Dieu. Un jour, Dieu va donner le corps. C'est fini. Yannick va s'étendre sur le plancher, va aller se présenter devant Dieu. Mais jusqu'à ce jour-là, Dieu me fait grâce. Et chaque fois que je lis dans sa parole la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, puis là je dis, mais ce Dieu-là saint, ce Dieu juste-là, est-ce que je vais pouvoir me présenter devant lui? Il m'exhorte à me repentir. Chaque fois, c'est un message d'espoir qu'il m'envoie. Un message de grâce où c'est possible pour moi de me repentir. C'est juste un policier qui vient puis qui dit, lâche ton arme. On prend une autre direction. Ce n'est pas un sniper. Et c'est ça qui se passe ici dans le récit. Jonas est envoyé avec un message d'espoir, un message lucide, un message vrai. Dieu est juste, Dieu est saint. Dieu est profondément troublé, offensé par la méchanceté du cœur humain. C'est vrai, c'est vrai. Et le message d'espoir est de dire, un jour, il va falloir rendre des comptes à Dieu pour tout ça, pour toute cette stupidité, cette méchanceté-là. Alors, pourquoi ne pas vous repentir maintenant? Dieu a à cœur le salut des hommes. Et toute l'histoire de Paul, de sa conversion, de sa mission d'annoncer l'Évangile à des non-juifs, Dieu a à cœur le salut des hommes, constamment. Et je vous avoue que ce qui me touche le plus dans le passage, c'est que Dieu se sert de messagers tellement, tellement, tellement humains pour apporter ce message-là. Pour moi qui suis chrétien, c'est ça qui me touche le plus. C'est de savoir que Dieu a bien voulu se servir de Jonas. Que Dieu a bien voulu se servir de Paul, qui était un massacreur de chrétiens, un persécuteur des chrétiens, qui mettait toujours son vote pour qu'il y en ait un de plus de mis à mort. Et Dieu, dans sa grâce, veut se servir de toi et moi. Vous savez, on dit que lorsqu'on se compare, on se console. Je vous donne deux belles occasions de vous consoler ce matin. Comparez-vous à Jonas, comparez-vous à Paul. Dieu veut se servir de vous. Parce que Dieu a toujours travaillé comme ça. Et dans ces deux récits-là, il y a comme des situations exceptionnelles où Dieu va parler directement à Jonas, puis oui, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe ici. La même chose avec la conversion de Paul, c'est littéralement le Seigneur qui apparaît à Paul, et donc c'est extraordinaire. Puis sur le navire, il y a un ange qui vient l'avertir que le navire va être sauvegardé, tout ça, c'est vrai. Mais vous comprenez que ces gens-là sont envoyés pour donner un message homme à homme, une personne à une personne. Donc, dans 99,9% des cas, il n'y a pas d'anges qui apparaissent. Dans 99,9% des cas, c'est vous et moi, aussi imparfaits qu'on est, aussi faibles, aussi craintifs. Et lorsqu'on se regarde dans le miroir de la parole de Dieu, confondu par nos propres luttes, nos propres péchés, constamment besoin de retourner à la grâce, mais Dieu se sert toujours de messagers humains, tellement humains, tellement humains. Et je vois encore une fois le cœur de Dieu là. Dieu se sert de personnes imparfaites comme vous et moi. Alors, comme vous le voyez, il y a énormément de points parallèles entre les deux passages. On voit dans les deux cas la souveraineté de Dieu. Dans les deux cas, on voit la bonté de Dieu. Dans les deux cas, on voit le cœur de Dieu, combien Dieu a à cœur le salut des hommes. Pourtant, je l'ai dit au début, il y a une différence fondamentale entre les deux récits. Et pendant que j'étais en train d'étudier le livre des Actes, je me préparais pour apporter le message, j'étais en train de lire ce récit-là dans la tempête. Tout de suite, j'ai été ramené dans mon esprit, j'ai été ramené tout de suite à Jonas. J'ai dit, attends un petit peu, c'est deux histoires de tempête, mais tellement de similarités puis tellement de ressemblances, mais en même temps, il y a quelque chose de profondément différent dans ces deux histoires-là. Et c'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur, la différence. La différence, c'est quelque chose de fondamental. La différence, c'est quelque chose qui fait toute la différence dans tout ce qu'on fait. C'est la disposition du cœur, vous le savez, hein? Il y a plein d'affaires qu'on fait dans la vie, puis ce qui va faire la différence, c'est la disposition de mon cœur, c'est tout. C'est juste ça qui va faire la différence. Je vais faire une tâche à la maison qu'on me demande de faire, puis si je le fais avec la bonne attitude, c'est bon. Si je le fais avec la mauvaise attitude, tout est lourd, tout est pesant. C'est la disposition de cœur qui vient faire toute la différence. Mais ici, la différence, c'est la différence entre le cœur des deux missionnaires. Parce que dans le cas de Jonas, Jonas n'a pas du tout le cœur de Dieu pour la mission. On l'a vu ensemble, Dieu a cœur le salut des hommes. Jonas n'a pas ce cœur-là. Son cœur ne bat pas au rythme du cœur de Dieu, mais pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, Dieu veut nous donner son cœur pour qu'on désire annoncer l'Évangile, ce message de grâce aux gens. Et Dieu voulait le faire avec Jonas aussi. Avec Jonas, on voit un missionnaire qui a besoin d'une transplantation cardiaque. Et peut-être que ce matin, alors qu'on achève le livre des Actes, vous dites, Yannick, ça fait comme trop longtemps que tu nous achales avec la mission, tu es constamment là. Alors peut-être que ce matin, vous vous sentez comme Jonas. Vous faites un examen de conscience, puis vous dites, pour de vrai, là, à la semaine longue, je m'en vais, puis j'en ai rien à cirer de ce qui se passe avec tout le monde autour de moi. J'ai le même cœur que Jonas. Puis pour être honnête, je vais le résumer comme ça, Jonas n'avait pas de cœur. Il n'avait pas de cœur. Son cœur était mort. Jonas n'a pas de cœur, il n'est pas converti. J'aimerais ça vous inviter à regarder l'histoire de Paul et de son naufrage comme l'histoire de Jonas qui se serait converti. Parce que dans les deux cas, on voit la souveraineté de Dieu. Dieu se glorifie, Dieu accomplit ses desseins, Dieu veut le salut des hommes, Dieu fait tout ça. Puis Dieu va se servir de Jonas et va se servir de Paul. Maintenant, moi, ce que je vois lorsque je lis ça, c'est que Dieu peut se servir de moi avec moi ou de moi malgré moi. S'il m'a donné le message de l'Évangile, bien, je vais m'afficher tôt ou tard comme chrétien au travail. Puis d'une manière ou d'une autre, ça se peut qu'il serve de ça, même si je suis constamment en train de résister, puis non, je ne veux pas témoigner, puis non, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Je veux dire, il l'a fait avec Jonas, d'accord? Dieu est bon, Dieu est bon. Mon cœur peut ne pas battre comme le cœur de Dieu, puis Dieu va pouvoir se glorifier à travers moi quand même. Mais par contre, peut-être malgré moi. Alors, si vous me demandez si je veux être comme Jonas, si je veux être comme Paul, je vais être comme Jonas, je vais avoir le cœur rempli de reconnaissance lorsque je vois Dieu faire son œuvre autour de moi. Et donc, je vais avoir ce cœur-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du film Warm Bodies. Un film bizarre, OK? Petite comédie romantique bizarre, d'accord? Bizarre parce que c'est une histoire de zombies. Maintenant, dans cette histoire-là, en gros, c'est ça, OK? En gros, c'est un jeune qui est un zombie et donc, par définition, il n'a pas de cœur. D'accord? Un zombie, c'est un mort. Dans cet imaginaire-là, c'est un mort vivant. Et donc, c'est l'histoire d'un zombie qui n'a pas de cœur. Il est mort. Et il s'en va dans la vie. Et puis, une journée, il sort avec ses chums pour aller faire un pique-nique. Si vous me suivez, ils s'en vont faire un pique-nique ensemble. Maintenant, lorsqu'ils s'en vont là-bas, à un certain moment donné, il va voir une vivante qui va lui tomber dans l'œil. Et au premier regard, ça va être l'amour de sa vie. Et là, ce qui se passe dans le film, c'est qu'à ce moment-là, lorsqu'il la voit, lui, il n'y a pas de cœur, son cœur est mort. Au moment où il la voit, tout d'un coup, boum, il y a une pulsation cardiaque. Et toute l'histoire, c'est ça, c'est l'histoire de la rédemption d'un mort vivant qui n'a pas de cœur et qui, parce qu'il est saisi par l'amour, tranquillement, son cœur, pouf, va recommencer à battre, boum, va recommencer à battre, boum, et va le ramener à la vie. Jonas n'avait pas de cœur. Et quand je dis ça, c'est pas mal littéral. Dans le sens spirituel de la chose, Dieu connaissait son peuple et Dieu avait annoncé qu'un jour, il donnerait un nouveau cœur à son peuple. un cœur comme le sien, un cœur qui est rempli du désir de glorifier Dieu. On voit ça dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. Ancien Testament, promesse qui est faite par Dieu. On lit dans Ézéchiel, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Mais c'est ça la différence fondamentale entre Paul et Jonas. Paul, c'était quoi? Paul, c'était quelqu'un qui haïssait Jésus-Christ. Ça veut dire à mourir, pas à mourir, à tuer. Comprenez? Il zigouillait des chrétiens, il pourchassait. Il haïssait Christ à tuer des chrétiens. Il haïssait les chrétiens. Et un jour, Jésus-Christ est venu le confronter avec son amour. Et Paul a réalisé que Jésus était le Messie, le Sauveur qui l'attendait. Et que ce Messie-là, ce Sauveur-là, était venu mourir sur la croix pour ses propres péchés. Et au moment où l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix est entré dans son cœur, boum, 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 son cœur a commencé à battre. Les Écritures nous disent que lorsqu'une personne saisit l'amour de Dieu manifesté à la croix en Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Quand un être humain saisit cela, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Il y a une transplantation cardiaque qui se produit. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Un cœur nouveau nous est donné. Et boum, notre cœur commence à battre comme le cœur de Dieu. Comme le cœur de Dieu. Et c'est ça la différence entre Paul et Jonas. Dieu peut se servir de Jonas qui n'a pas de cœur. Qui n'a pas de cœur, qui a saisi la grâce de Dieu comme quelque chose qui était pour lui dans son intérêt propre et ça s'arrête là pour son peuple, mais qui garde, qui cultive dans son cœur de l'indifférence, une haine profonde envers les autres personnes, ne saisissant pas la dynamique de la grâce qui est Dieu t'a fait grâce pour que tu partages cette grâce-là. Dieu est venu te pardonner pour que toi-même tu sois un agent de pardon de la part de Dieu. Dieu veut que tu viennes le représenter. Dieu est en train de recréer cet homme nouveau-là qui lui ressemble vraiment. Et Jonas n'avait pas saisi cela. Parce qu'il fallait attendre ce moment où l'Esprit de Dieu serait donné, un cœur nouveau serait donné. Mais quand quelqu'un saisit l'amour de Christ, on assiste à une transplantation cardiaque. Un cœur nouveau est donné. Un cœur qui était nécrosé, mort, qui ne battait pas au rythme du cœur de Dieu, nous est donné à ce moment-là. Et tout à coup, il y a toutes sortes de lumières qui s'ouvrent dans notre esprit parce qu'on commence à entendre l'Esprit Saint parler. La parole de Dieu nous brasse, nous challenge, nous réveille, nous incite au bien. Lorsqu'on voit le péché dans notre vie, notre cœur est attristé. Et il y a un changement en profondeur, il y a un changement d'orientation dans notre vie. Et on se retrouve avec un Paul qui est un persécuteur de chrétiens, mais qui maintenant a un cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu et qui a simplement comme désir dans sa vie d'aller partager cette grâce à quiconque. Au péril de sa vie, ce n'est pas important. Il veut aller partager cette grâce-là, annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu veut nous donner ce cœur-là. Maintenant, si vous êtes chrétien, Dieu vous a déjà donné ce cœur-là. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous a déjà donné ce cœur-là. Et il se peut ce matin que vous vous sentiez comme Jonas. Et vous dites, oui, mais comment ça se fait que mon cœur ne bat pas comme le cœur de Dieu? Est-ce que c'est possible que vous ayez attristé l'Esprit de Dieu? Est-ce que ça se peut que vous ayez attristé l'Esprit de Dieu? Dieu vous parle, Dieu vous parlait, puis vous avez résisté, vous avez tassé ce que l'Esprit est en train de vous dire à travers sa parole, à travers des messages, à travers des frères et sœurs, des choses qui vous montraient dans votre cœur. Et votre cœur s'est progressivement endurci. C'est possible pour le chrétien de vivre ça, vous savez. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Par où on commence? Comment on fait pour repartir ce cœur-là qui semble ne plus battre? Dieu vous a donné son esprit. Et Dieu n'attend que cela, s'asseoir avec vous comme il a fait avec Jonas et venir chuchoter à votre oreille, Où est son cœur? Comment est-ce qu'il voit les gens autour de vous? Peut-être que vous avez besoin de commencer par aller dans la prière. Vous savez, on arrive à la fin du livre des Actes. La semaine prochaine, on va terminer l'exposition du livre des Actes. J'aimerais demander aux musiciens de venir me rejoindre. La semaine prochaine, on va arriver à la fin de l'exposition du livre des Actes. On va voir Actes 28, puis on va prendre juste quelques semaines pour aller traiter quelques sujets qu'on a peut-être passé un petit peu vite. Lorsque j'ai choisi de prendre tout ce temps avec vous pour aller dans le livre des Actes, c'était très intentionnel. Hein? Lorsque comme pasteur, on va dans la prière puis on dit, « OK, Seigneur, c'est quoi les livres qui s'en viennent? » Cette semaine, j'étais dans ma retraite. Par la grâce de Dieu, j'ai planifié 2 ans et demi, d'accord? Le Saint-Esprit peut aussi nous parler du futur. On n'est pas obligé d'attendre la veille avant de prêcher pour qu'il nous dirige. Planifié 2 ans et demi. Mais je vais dans la prière, puis là, je dis, « Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que ton peuple a besoin d'entendre? Où est-ce qu'on va? Dans quel livre? Qu'est-ce qu'on va faire? » Et lorsque mon choix s'est arrêté sur le livre des Actes, j'en ai parlé un peu avec les anciens, tout ça, puis qu'est-ce que vous en pensez? Je savais que le thème qui sort constamment à travers le livre des Actes, c'est l'Esprit Saint qui est présent, qui transforme son peuple. Mais c'est constamment la mission. Parce que dans le fond, Luc veut démontrer que ce mandat que Jésus a donné, cette promesse qu'il a donnée, qu'il accompagnerait ses disciples, va venir se réaliser à travers toute cette période-là. Et l'histoire continue encore. Si on arrive à la fin du livre des Actes, puis vous dites, « Oui, mais Yannick, mon cœur ne bat pas encore pour la mission. Je ne suis pas là. Tu ne vois pas ma vie. Il y a tellement d'affaires à mettre en ordre dans ma vie. Je ne suis pas là. » Peut-être qu'il faut commencer par la prière. Peut-être qu'il faut commencer par la prière et simplement aller dans la présence de Dieu et dire, « Seigneur, je ne t'entends plus. » Il y a été un temps lorsque tu as saisi mon cœur, tu as saisi ma vie, tout était simple, tout était clair pour moi. J'entendais ta voix. J'entendais ta voix. Quand il y avait un péché dans ma vie, je le voyais, je te le confessais. Quand il y avait des opportunités de te servir, de te glorifier, je le faisais. Quand j'étais appelé à être généreux, je le faisais, je répondais. Mais je n'entends plus ta voix. Et aujourd'hui, je me sens comme Jonas. Je fais les choses parce que tu me tords le bras, puis je vais le faire parce que je suis peut-être mieux finalement de craindre Dieu que de faire les choses à ma manière. Mais dans mon cœur ne bat pas au rythme de ton cœur, Seigneur. Et peut-être que la première chose que tu as à faire, c'est à te repentir, aller dans la prière, chercher la face de Dieu, puis dire, Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Je veux que ta parole nourrisse, fasse jaillir en moi des sentiments comme les tiens, Seigneur. Peut-être que tu es appelé à faire des pas de foi, à commencer à partager ta foi autour de toi. Va dire, OK, je vais y aller un peu comme Jonas parce qu'il faut que je le fasse, mais Seigneur, allume ça en moi. Peut-être que tu as besoin de te joindre à un petit groupe qui est là dans la mission. Puis ce petit groupe-là est en train, justement, le groupe a dit, écoute, il faut qu'on aille là. Le cœur de Dieu est là. On est sur la terre pour faire ça, pour faire des disciples de Christ. Et ce groupe-là fonce dans cette direction-là. Ils sont eux-mêmes en train de chercher et dire, oui, mais comment on fait ça? Peut-être que tu as besoin de mettre ça sur la table avec ton petit groupe et dire, notre cœur n'est pas là, on a le cœur de Jonas, les amis. Quand on témoigne, c'est parce que Dieu nous le met en pleine face puis quelqu'un nous dit, hey, t'es pas chrétien, toi, c'est quoi ça veut dire? Ça, c'est quoi la différence entre un chrétien et un non-chrétien? C'est quoi, là? OK. On va t'expliquer ça. Jonas. Mais Dieu veut éveiller ça en toi. Il veut repartir ce cœur-là qui va se mettre à battre. Dieu veut se glorifier à travers ta vie. Il va le faire. Je suis vraiment en paix avec l'Église de l'Espoir. Dieu est en train de le faire et il va le faire. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas chrétiens. Vous n'avez même jamais reçu un esprit, l'Esprit de Dieu, un cœur nouveau. Et Dieu est en train de vous attirer. Vous êtes ici ce matin. Hein? À moins que quelqu'un vous enchaîne pour vous traîner ici, c'est parce que Dieu est en train de vous attirer. Et Dieu est en train de vous interpeller. D'autres, entre vous, vous avez attristé l'Esprit de Dieu. Plus capable d'entendre l'Esprit vous parler. Et Dieu vous appelle simplement à vous mettre à genoux. Encore une fois, dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux entendre ton Esprit me parler. Je veux que tu viennes remplir mon cœur. Afin que mon cœur batte au même rythme que le tien. Certains d'entre vous, vous devez passer à l'action maintenant. Passez à l'action, faites-le. Trouvez des domaines, trouvez des endroits. Commencez à prier pour des personnes. Prenez des moyens pour partager l'Évangile. Allez servir des gens. Trouvez quelqu'un dans votre quartier qui est mal pris. Puis pointez-vous lundi matin, journée de l'action de grâce avec un râteau, puis allez faire le ménage. Terminez la journée en disant, « Hey, ça me fait tellement plaisir, Dieu est bon, je voulais juste faire ça pour toi. » Dieu va ouvrir d'autres portes après ça pour que vous puissiez aller vraiment vers l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu va le faire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer, je veux te rendre grâce. Seigneur, j'étais un Paul, j'étais un Jonas, j'étais un Paul, j'étais cette personne qui n'avait pas un cœur, qui battait comme le tien parce que je n'avais pas de cœur, Seigneur. Bien honnêtement, j'étais un zombie dans cette vie, Seigneur. Sans cœur, mort. Et dans ta grâce, non pas parce que je te cherchais comme les gens de Ninive, qui ne te cherchaient pas, Seigneur. Non pas parce que j'étais en train de vouloir découvrir Jésus-Christ, comme ce Paul qui haïssait Jésus-Christ ne voulait pas le découvrir. J'étais comme ces gens-là, Seigneur. Mais dans ta grâce, tu m'as envoyé un Jonas, un Paul, qui est venu me partager ton cœur et me partager ce message d'espoir, Seigneur. Et dans ta grâce, tu as saisi mon cœur. J'ai compris ton amour, Seigneur. Et ton esprit a commencé à faire battre mon cœur parce que ton esprit est venu vivre en moi, Seigneur. Et Seigneur, je veux confesser que trop de fois dans ma vie chrétienne, on dirait que je me suis endormi, mon cœur s'est refroidi, au point même d'en venir où je te disais, « Seigneur, mais c'est quoi la différence entre un non-chrétien et moi? » Tu me dis que j'ai ton esprit, mais je ne l'entends plus me parler, Seigneur. Et dans ta grâce, Seigneur, chaque fois tu m'as conduit dans cet endroit secret où j'allais dans la prière, le cœur brisé. Et tu venais, Seigneur, m'humilier, me consoler par la grâce de ton évangile, et me relever, Seigneur. Seigneur, je te prie pour cette assemblée. Je te prie pour chacun d'entre nous. Donne-nous ton cœur, Seigneur, pour le salut des hommes, afin que cette Église soit vibrante, vivante, remplie de ton esprit, Seigneur. Parce que nous vivons au milieu des hommes, en les regardant et en les aimant comme tu les aimes, et en désirant autant que toi, Seigneur, leur salut, leur apporter le message d'espoir de Jésus-Christ. Amen.